Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus Angers.
Plateau Radio.
Toute cette semaine, nous sommes installés dans le hall du Centre des Congrès.
Live Report. J'ai été à la rencontre de quelques groupes, de festivaliers,
interviews et reportages.
Pour en savoir plus sur cette édition, nous sommes au téléphone avec l'un des fondateurs du label Infiné. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Radio Campus Angers sort du studio.
Merci, merci à tous d'avoir participé à ce TikTok Boom Club exceptionnel du bazar.
Et s'agite sur le terrain.
Bonjour à tous, vous êtes bien dans le dernier sous-marin de la semaine, sous-marin exceptionnel, enregistré au Centre des Congrès, un sous-marin dédié au festival Premier Plan. Je vous rappelle le principe, l'équipe subaquatique a accueilli les membres de Sinequanon pour vous proposer des critiques, des portraits, des interviews, mais aussi des reportages. Aujourd'hui, une interview d'Hugo Radi, qui est un jeune réalisateur suisse. On vous diffusera également les 5 minutes de rencontre avec Laetitia Casta, un reportage sur ce qui se passe en marge du festival. Et vous aurez également le droit à une critique de A Cry From Mountain, un portrait de Ziyad Demirol. Et on commence tout de suite par un reportage d'Antoine qui voulait vous faire rencontrer le régisseur du Grand Théâtre.
La force de Premier Plan, c'est aussi du cinéma qui investit d'autres lieux, l'Auditorium ou le Grand Théâtre d'Angers. Nous avons rencontré M. Cadeau, régisseur général de la ville d'Angers, pour nous en donner un peu plus d'informations.
Je gère trois salles de la ville d'Angers, le Théâtre Chanzy, le Théâtre Chabrol et le Grand Théâtre. Mon rôle sert à coordonner toute la technique et de voir les besoins de programmation avec la direction, tout ce qui est compatible ou pas. On rencontre Premier Plan, il y a plusieurs réunions en amont moi je travaille beaucoup avec Nathalie Guillard du festival Premier Plan qui est responsable de la logistique. On voit ensemble les besoins, l'organisation, eux ils planifient tous leurs films, on a trois séances dans la journée, une le matin, deux l'après-midi et puis une le soir, quatre séances en tout. Alors comment c'est adapté au cinéma, c'est vrai que naturellement on ne fait pas de cinéma, on faisait plus de cinéma. Au début du XXe siècle, le théâtre était en cinéma. On revient aux sources, mais c'est vrai que nous on ne faisait pas de théâtre. On a fait également l'année dernière, c'était une première avec le festival Premier Plan. Techniquement, c'est moins difficile qu'un opéra, mais c'est vrai qu'il y a toute une coordination derrière et un fonctionnement différent par rapport au théâtre. La logique de fonctionnement du festival n'est pas la même que la nôtre. On a su s'adapter et c'est vrai que ça se passe très bien avec eux et on est ravis de les accueillir chez nous. La configuration de la salle n'est pas tout à fait la même parce que la jauge change. On n'ouvre pas le troisième balcon. On passe de 731 places à 489 places. Parce qu'on a des personnes qui sont érudites du cinéma et il y a des places qui ne sont pas très bonnes dans la salle. Au niveau du son, on a une qualité énorme parce que c'est une société de Paris qui descend sur Paris, qui font l'installation. Nous, le théâtre, on est un théâtre d'accueil. On a des techniciens qui tournent pendant tout le festival pour les séances, mais on est autonome par rapport à ça. Le festival nous laisse carte blanche. On a leur directive, mais on est vraiment autonome. Je suis pas un spécialiste de cinéma, je suis plus un spécialiste de théâtre. C'est vrai que c'est pas tout à fait la configuration. Là, on privilégie l'image et le son. Dans le théâtre, nous, notre système ne sert pas du tout. Sert juste pour les présentations. On n'a pas de grand chose de techniquement à apporter. Là, on ne demande pas comme un spectacle de théâtre, de nombreux projecteurs ou autres. Là, c'est vraiment un écran de cinéma. Il y a toute une logistique en amont, des réglages qui se font deux jours avant. Maintenant, il y a des réglages sur l'image. On a des projectionnistes qui sont s'enrichissants. On est heureux de faire le festival. Pour moi, il n'y a pas de mots qui définissent vraiment. On est content de les recevoir. Déjà, ça nous change et c'est vrai qu'on est vraiment ravis de les accueillir.
Un reportage signé Antoine. Mélissa, tu es notre spécialiste, notre référente des films d'école. Tu y es retournée hier. Alors, c'était comment ?
Pierre-Louis, c'était de la merde.
Merci beaucoup, Mélissa. On va passer à Thibaut. Non, plus sérieusement, c'était comment ?
On a été pour la première fois déçus, Thibaut et moi, de notre quotidienne séance de films d'école. Alors, le carnage commence avec Even, un film de la Danoise Joséphine Kirkhoff-Nielsen. Donc, l'histoire d'une petite nana qui rend visite à ses parents avec son mec. Là, elle découvre que ses parents font ménage à trois avec un jeune narcissique. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours affaire en tripatouillant dans les relations amoureuses mêlées compliquées. Malheureusement, là, on reste assez à la surface et on s'ennuie vite, car tout est finalement très prévisible. Mais bon, faute d'un scénario plutôt mauvais, on ne peut pas lui reprocher sa manière de filmer, avec des plans parfaitement cadrés, envolés d'oiseaux et mains effleurant l'eau en slow motion. Mais bon, être clean et afficher une longue liste de participants dans son générique de fin ne suffit pas. Et la dégringolade de film de merde ne s'est pas arrêtée. On a ensuite assisté au film Une sur trois, réalisé par la réalisatrice espagnole Cecilia De Arte. Une histoire un peu bateau, celle de Simone qui tombe enceinte et décide d'avorter. Donc on suit son cheminement avec sa copine Zelda, qui l'accompagne avec ses blagues bien poilantes. Et dans ce film, on tombe un peu dans les stéréotypes de genre, et l'histoire est traitée de manière maladroite, voire très très bateau. Mais je retiens quand même la performance de l'actrice qui joue Zelda, avec qui j'irai volontiers prendre un verre, elle a l'air bien sympa. Mais bon, parenthèse fermée, on a croisé les droits avec Thibaut pour que le dernier court-métrage soit un peu mieux. Et malheureusement, la magie du bon film d'école n'était toujours pas au rendez-vous. Pendant que Thibaut faisait la sieste, j'ai assisté à Das Zatinische Dickheit, partie 2, réalisé par l'allemand Willy Hans. Un cinéaste peut-être trop incompris. Das Zatinische Dickheit, ça raconte l'histoire d'un ado déphasé qui passe ses journées dans une ferme de redressement où il tue le temps en fumant des gropettes. Mais tout se complique dans nos cerveaux avec des histoires de clochards qui prophètent la fin du monde, de tasses cassées et de gros plans sur un tas de bois. Le court-métrage aurait pu être très sympa, mais nous n'avions peut-être pas toutes les clés pour le comprendre. Mais enfin bon, somme toute, ne soyons pas trop exigeants, car il ne faut pas oublier que ce sont des films d'école, de fin d'études pour la plupart, peut-être faits juste pour le but de rendre quelque chose, mais quand même, espérons qu'ils feront mieux la prochaine fois.
Merci beaucoup, Mélissa. Thibaut, toi, tu es aussi allé voir les films d'école. Tu avais une critique à faire, tu as choisi un film dont tu voulais parler.
Oui, il va prendre un peu pour les autres aussi, c'est dommage, mais c'est le jeu. Comme l'a très bien dit Mélissa un peu plus tôt, ce programme 3 des films d'école était assez décevant. Pour être honnête, hein, il y a d'autres facteurs extérieurs qui jouent, comme la fatigue, sûrement aussi le fait que c'est la première fois depuis le début du festival que je sors déçu d'une projection, mais tout de même. Revenons donc sur le cas de Even, le premier film du programme. Un film danois réalisé par Joséphine Kirkhoff-Nielsen. Pour ce qui est de l'histoire, en quelques mots, je vais faire une redite de ce qu'a dit Mélissa, mais comme ça, ceux du fond qui n'écoutent que d'une oreille sauront de quoi on parle. On suit Victoria, une jeune journaliste, qui va rendre visite à ses parents galeristes dans leur maison de vacances à Majorque avec son cum Oscar. Mais une fois sur place, ses certitudes sur la relation qu'entretiennent ses parents vont être chamboulées. Déjà, je suis désolé, mais en fait, entre le décor et le pitch, moi j'ai eu l'impression de voir un remake de Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Alors le film est techniquement beau, mais il ne peut pas s'empêcher de tomber dans des effets artis du plus mauvais goût. Je pense aux plans fixes qui servent de transition entre les scènes à l'aide de vols de mouettes ou de vagues s'écrasant sur les rochers. Pourquoi pas, mais c'est quand même un peu trop kitsch pour servir le propos. On a aussi cette scène au bord de la piscine avec les mouvements de va-et-vient de la main d'un des personnages en slow motion dans l'eau qui nous a tous marqués pour son inutilité. Après, c'est ma vision du cinéma, mais j'estime que quand on commence à utiliser des effets comme les split screen ou le slow motion, c'est qu'on n'est pas assez calé en termes de mise en scène pour faire passer son message simplement. Si les acteurs ne sont pas fondamentalement mauvais, ils sont quand même desservis par des dialogues qui tombent dans le cliché. Pas tous, hein, il y a quelque chose qui tombe juste, mais entre les « Ah, j'avais envie d'aller me baigner » ou autre « Je t'avais perdu, Victoria, tu n'étais plus là !» Enfin, sérieusement. On a bien quelques tentatives de détourner les clichés, comme la fin de cette scène au bord de la plage, mais le problème, c'est que le film, baignant dans ces mêmes clichés, se servir une ou deux fois de cette mécanique pour donner l'impression d'être intelligent, paraît au mieux un peu superficiel, au pire carrément hypocrite. Le problème, quand on voit plein de films d'école qui, même en étant loin d'être parfaits, essaient de parler d'autre chose que ce dont on a l'habitude ou de développer leur propre univers visuel, en fait, j'ai juste du mal à comprendre comment, en sortant d'une école de cinéma, la seule chose qu'on a à proposer soit une relecture de ce qui a été déjà traité des centaines de fois.
Merci beaucoup, Thibaut. Bon, une déception sur toute la semaine, ça va, c'est quand même raisonnable.
Je me suis reposé, je le vis plutôt bien.
Le sous-marin revient juste après ça. Bye. Johnny Pearson avec Assault Course dans le sous-marin sur les ondes de campus. Juste avant ce titre, Mélissa et Thibaut vous parlaient des films d'école. On avait envie de vous proposer la rencontre qu'a faite Thibaut avec Hugo Radi. Hugo Radi, si vous vous rappelez bien, si vous avez écouté l'émission d'hier, vous avez entendu son portrait. C'est un jeune réalisateur suisse. Tout de suite, rencontre avec Hugo Radi.
Nous sommes en compagnie de Hugo Radi qui est venu présenter Swiss Air, un court-métrage qu'il a réalisé. La première question, c'est comment t'es venue l'idée de ce court-métrage ?
L'idée de ce court-métrage, elle part essentiellement de certaines rues de Genève que j'avais l'habitude de voir comme je viens de là-bas et qui sont des rues ultra luxueuses Et c'était quelque chose qui, en même temps, m'attirait l'œil. Et bah, ce sont des rues qui sont faites pour attirer l'œil, qui sont faites pour ça. Et en même temps, je sentais une espèce de violence latente ou invisible derrière ça. C'est en partant de ces rues-là que j'ai voulu faire ce film, tout en mixant ça, en plongeant des jeunes de là-bas, en fait, et ce qu'ils pouvaient en dire.
Le travail avec ces jeunes, t'en connaissais certains, tu les rencontrais plus tard ?
Alors, il y en a un que je connaissais très bien. Et ensuite, par lui, j'ai pu en connaître un autre que je connaissais un peu moins bien et avec qui j'avais commencé en premier à faire juste des discussions. Et juste des rencontres en fait. On passe juste du temps à ne rien faire ensemble. Et ensuite est venu le troisième de la bande avec qui on a continué ces discussions et juste on parlait de choses un peu banales en fait, juste de ce qu'on ressentait du moment et de ce qu'on voyait par rapport aux choses et au monde qui était autour de nous, quoi. Et en fait, ouais, en reprenant ces discussions-là, je réécrivais en fonction. Pour le film, en fait.
Il y a un des personnages qui dit à un moment que dans ce qui pourrait arriver de pire en Suisse et à Genève, ça serait de mourir d'ennui. C'est quelque chose que tu as vécu en grandissant là-bas ou c'est un peu exagéré pour les besoins de l'ambiance ?
Je sais pas. Après, je pense que c'est la lyrics du truc la pire, je pense. Mais enfin, la plus moralisateur, je sais pas comment t'appelles ça, mais un peu trop, elle est trop grosse. Mais en soi, c'est quand même un sentiment et... En tout cas, il y a un sentiment de vacuité que je ressens et que j'ai pu ressentir moi aussi et que eux, en me parlant, le sentaient par rapport à où ils vivaient et par rapport à l'âge qu'on a aussi. Et c'est vraiment un truc, je pense, générationnel, quoi. Et ça a quand même à voir avec ce qu'il y a autour. Enfin, j'ai l'impression que quand même... C'est clair que spirituellement, j'ai l'impression que plus personne, en tout cas, aucun de nous avait vraiment ouais, comment on pourrait dire ? De croyance ou quoi que ce soit, et c'est un peu dur de croire en quelque chose. Et ça, c'est pour moi, si on ne croit plus rien, enfin, s'il n'y a plus de. Ouais, s'il y a plus de surnaturel, un truc qui puisse aller un peu au-dessus de ce qu'on voit, c'est compliqué de ne pas s'ennuyer non plus, quoi.
Cette espèce de vacuité, comme tu dis, on la retrouve assez dans la mise en scène. Enfin, j'ai l'impression que tout est filmé d'une façon très froide et très distante. Par contre, les images sont extrêmement bien composées. C'est un soin particulier auquel tu tiens. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux sur les miroirs, sur la composition, les perspectives. Enfin, c'est vraiment extrêmement travaillé.
Ouais, non, c'était vraiment dès le début. On s'est dit avec mon chef opérateur, ce qui est un ami à moi, hein, Augustin Losserand, on avait un désir de rendre compte aussi dans le cadrage par rapport à ces rues-là aussi, qui sont de toute manière, les vitrines sont de toute manière très bien composées, en fait, c'est fait pour être carré, pour qu'il y ait pour que ça marque l'œil, quoi. Et du coup, c'était un désir quand même de garder ce côté hyper léché et aussi distant, en fait, par rapport au personnage, c'est clair, on n'est pas souvent avec eux de manière très proche, par quelques moments. Et ouais, du coup, c'était vraiment un désir de base de travailler la composition tout en étant complètement dans un rush, quoi. C'était un peu le défi, ouais.
Le format carré de l'image dans ton film, ouais. C'était choisi dès le départ aussi, parce qu'on n'en voit pas tout le temps non plus, et c'est une façon différente de composer.
Ça rentrait aussi dans ce truc d'image... Enfin, il y a un truc de ligne droite et de, comme tu dis, de perspective et tout pour... appuyer encore plus ce côté pas bling bling, j'allais pas dire ça, mais oui, par rapport à l'architecture qui est quand même super carré et ouais, rendre le truc encore plus carré pour aller dans cette vision de composition de vitrine, en fait, c'est vraiment ça, quoi.
T'avais fait des essais au format classique avant de te décider ou t'étais directement parti là-dessus?
On s'était dit directement et après moi c'est un truc aussi, c'est presque le truc du 4 tiers des caméras avant. Moi, je filmais du skateboard quand j'étais petit et c'était que en 4 tiers et avec des VX1000 et ce genre de trucs. Et c'est aussi un format qui encadre. C'est clair que ça encercle plus, on est moins aéré, mais c'est un truc que je connais aussi. Et, du coup, c'est sentimental et en même temps, ça va dans le propos, je pense.
Il y a cette espèce de violence sous-jacente aussi qui est aussi assez abstraite, peut-être un peu moins vers la fin où on voit plus explicitement vers quoi elle est dirigée. Et il y a l'histoire de l'arme autour de laquelle on tourne beaucoup, mais elle est toujours très étouffée aussi. C'était un choix ?
Alors oui, je pense que de base, sur cette violence latente, il y avait... comment on pourrait dire ? J'ai... Putain, excuse, je suis fatigué, hein, mais... Par rapport à l'arme, oui, c'était déjà un choix de se dire qu'elle est presque tout le temps présente dans les plans, enfin, même si on la voit pas vraiment, et qu'ils s'en servent jamais. Enfin, c'était vraiment entre... ils parlent d'une violence qui pourrait exister, mais qui n'existe pas en Suisse. En même temps, ils sont sur une espèce de... pas de sérénité, mais... de calme absolu, en tout cas tous les personnages, et en même temps ils ont dans leurs mains une arme qui est vraiment réelle en fait, c'est pas factice. Donc c'était un peu jouer sur ces trois, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais je sais pas, t'as pas un mot, non, ces trois niveaux, ces trois degrés exactement, voilà.
C'est ça.
Mais ouais, c'est vraiment du shaking aussi, hein. C'est vraiment tout d'un coup, ok, ben... Finalement, ça prend tout d'un coup, ça devient plus concret du moment qu'ils sont dans la chambre, et bien sûr que ça pose des questions sur ce qui, pourquoi, etc. Moi, je m'en fous un peu, perso. Je me dis que je le donne comme ça et tu peux y penser ce que tu veux. Mais ouais, qu'est-ce que ça fait ? On a ces trois jeunes qu'on a vus avant dans une chambre de luxe avec une arme, quoi.
En tant que jeune réalisateur, venir comme ça au festival, présenter son film, faire un travail d'auto-promo, c'est quelque chose de nouveau pour toi ou tu en as déjà fait un peu ?
Non, comme ça, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, déjà, de faire un interview comme ça, je crois que c'est... Enfin, ouais, je fais pas ça, j'ai jamais fait. Mais non, je pense que ça fait... Ouais, c'est clairement nouveau, quoi. Il faut faire des cartes... On m'a dit de faire des cartes de visite et de faire ce genre de trucs. Enfin, après, je pense après tout le... Comment on pourrait dire ? Toute la structure des festivals et bon, ça fait tellement longtemps que ça a l'air d'exister que, mais il y a un truc assez archaïque aussi par rapport à ça, je trouve, par rapport à comment on regarde et on consomme l'image, mais bon, c'est peut-être une autre question sur comment faire, mais ouais, au niveau de l'autopromo, c'est tout nouveau pour moi, c'est clair.
C'est intéressant ce que tu dis au niveau de la façon de projeter les films, si tu veux développer.
Non, mais c'est vraiment une, j'ai pas de réponse, hein, mais c'est juste je me dis que, en même temps, ça donne une rareté à des films qu'on n'aurait presque jamais l'occasion de voir autre part que dans ces festivals. Enfin, je pense qu'il y a quand même clairement des films qui sont des perles et qu'on verra nulle part autre, enfin d'autres, à part si on chope les liens, enfin tous ces trucs-là. Mais rien que par rapport à ces liens internet, etc., c'est une autre expérience de cinéma, mais qu'elle n'est pas... Faut pas lésiner là-dessus non plus, quoi. Et en même temps, ça me rassure en voyant ici que y a vraiment des écoles et des, en fait, pour à qui on s'adresse aussi avec ce cinéma-là et à quelle génération, à quel type de personne, de quel âge en fait, à qui on parle, quoi, quand même. Parce que, enfin, de base, je sais pas, moi, le cinéma en Suisse c'est quand même assez cher aussi, enfin peut-être un peu plus qu'en France en tout cas. Et faut trouver des combines. Soit être étudiant et du coup on peut avoir des trucs gratuits, mais c'est clair que c'est pas donné non plus, quoi. Donc c'est des questions en tout cas que je me pose. Ouais.
Donc ça reste un problème, l'accessibilité à la culture.
Ouais, je pense qu'il faut essayer de trouver... bah oui, quand même, enfin ce sera toujours... Et en même temps, je me dis que c'est bien aussi de faire l'effort pour aller vers ça. Ça tient à tout le monde pourrait se débrouiller pour essayer de trouver une carte d'accréditation ici. Enfin, même si c'est compliqué, hein, je le veux bien, mais... Au moins, on n'a pas ce truc direct dans la bouche. Et si tu veux vraiment voir des trucs, il faut aussi aller par toi-même. C'est la même chose que diguer de la musique, je pense. C'est vraiment un truc comme ça.
T'as eu l'occasion d'aller voir quelques autres films à droite à gauche ou t'es trop pris, toi, par ton programme ?
Sur ce festival, j'ai vu un long métrage chinois. Je suis arrivé en retard. Et il était vraiment dans un autre... Je saurais même pas te dire le titre déjà, enfin, parce que je ne me rappelle plus, mais c'était un autre temps, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment une vision du temps, enfin, une élasticité qui est tellement énorme par rapport à nous, Européens. C'était intéressant, mais presque tu t'assoupis des fois, tu reviens un peu. Enfin, et moi, ça ne me gênait pas du tout en fait, de voir le film comme ça. Mais autrement, non, j'ai pas pu voir d'autre chose. Je suis arrivé hier soir, quoi.
Tu t'es retrouvé comment ici quand t'es dans ton école, tu dois postuler sur un truc ou on est venu te chercher à un moment donné ou ça se passe comment la sélection ?
Pour envoyer les films ?
Ouais.
Ouais, alors il y a certains, je pense que ça dépend. Moi je dois, souvent c'est moi qui dois envoyer au festival. Pour Angers par exemple, c'était l'école qui envoyait. Enfin pour certains festivals, c'est eux qui s'en occupent. Et ça dépend. Ouais, enfin c'est un peu un mix des deux, quoi. Soit c'est un peu l'école qui t'aide aussi. Enfin, qui prennent en charge le film, mais c'est quand même souvent à nous de se débrouiller pour l'envoyer à droite à gauche. Enfin, vraiment ce truc d'auto-promo, quoi, pour qu'il soit vu, quoi, tout simplement.
Et après, une fois que tu es là, tu apprends beaucoup au contact des autres. Là, j'ai juste aperçu qu'il y avait quelques étrangers. Vous n'avez peut-être pas les mêmes manières de bosser, de voir les trucs.
C'est sûr que bah, y a des films bien différents, quoi, même dans l'écriture, dans la narration. Enfin, moi, c'est aussi, je pense que c'est des questions que tout le monde se pose. En tout cas, quand tu veux faire des films, comment tu racontes l'histoire? Où est-ce qu'il y a une histoire? Où est-ce qu'il n'y en a pas? Ou comment... Ouais, essayer de travailler cette limite ou cette frontière narrative, en tout cas. Et bah, c'est clair qu'en voyant des gens d'autre part et d'autres écoles, ou même pas forcément d'écoles, hein, mais des gens qui font des films, tu sens qu'il y a autre chose, un autre regard, une autre pensée. Puis c'est clair que, ça, comme c'est des gens qui font des choses maintenant, c'est sûr que il faut le prendre et écouter ça aussi, quoi. Et pas se dire, enfin, il n'y a pas une méthode ou une recette. Enfin, j'essaie de trouver celle qui te correspond, quoi. Mais ça, c'est vraiment une question que je me pose. Même par rapport à ces frontières documentaires, fiction, et je me dis, c'est. Enfin, je m'en fous un peu personnellement. Enfin, je me dis qu'il y a moyen de toute manière, tu mets ta patte où qu'elle soit, quoi. Donc. Mais ouais, c'est très intéressant, quoi, de voir.
Eh bien, merci beaucoup, Hugo Radi, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Vous êtes toujours dans le sous-marin sur les ondes de campus, un sous-marin enregistré au centre des congrès. Le titre que vous venez d'entendre, c'est Antigua de Quartz. Tout de suite, on vous propose de découvrir notre rencontre de 5 minutes, hein, pas une de plus, avec Laetitia Casta.
Laetitia Casta, bonjour, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour répondre aux questions de campus. Vous êtes vice-présidente du jury de premier plan. Comment vous vous êtes retrouvée là, dans ce jury ?
C'est Claude Eric qui m'a demandé il m'a demandé si ça me ferait plaisir de participer à cette aventure et ça m'a enchantée et j'étais ravie. Je trouve que c'est une chance de pouvoir voir autant de films, qu'on me demande quelque part de défendre ces films, d'avoir une forme de responsabilité pour des premiers films en plus. Non, je trouve ça merveilleux.
Le président du jury est Arnaud Desplechin. Vous vous connaissiez avant ? Vous appréciez vos travaux respectifs ?
Alors, moi, je l'ai connu avant, oui. Je l'ai rencontré et j'aime beaucoup son travail. J'ai vu presque quasiment tous les films d'Arnaud par pur plaisir de son cinéma. J'aime ce qu'il fait. C'est un réalisateur très, très talentueux, très sensible. Il y a une grande délicatesse chez Arnaud. Voilà.
Alors, on peut considérer que vous êtes dans ce qu'on peut appeler le star système en étant actrice et mannequin. Est-ce qu'on se sent pas un peu enfermé dans une case au bout d'un moment ?
Je crois que je suis l'exemple même de la personne qui n'est pas enfermée dans une case.
Est-ce qu'on a une totale liberté ou est-ce que, par exemple, la marque dont vous êtes l'égérie vous impose, mais influe sur vos choix de carrière ou vous êtes totalement libre ?
Non, la liberté, de toute façon, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un prix fort à payer de quelque chose lorsqu'on fait des choix. Mais rien ne m'a jamais empêché de quoi que ce soit, en tout cas.
Vous faites ce que vous avez envie de faire, quoi.
Oui, oui.
Avec une carrière comme la vôtre, est-ce qu'on peut encore se permettre de, entre guillemets, prendre des risques en jouant, par exemple, dans un premier long métrage d'un jeune réalisateur? Ici, on est à premier plan, c'est
oui,
aussi ça.
J'ai fait beaucoup de films, beaucoup de premiers films. Et justement, quand on est acteur, on n'a qu'une envie, c'est qu'on vous remette en question et de prendre des risques et d'être exalté par le cinéma. Donc bien au contraire, oui, c'est même recommandé.
Si on arrête de prendre ces risques, quelque part, on perd quelque chose, c'est ça ?
Je ne sais pas, en tout cas, moi, oui.
Oui, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour continuer à travailler, à façonner.
Je crois que c'est un métier à chaque fois où on recommence tout à zéro. Donc, non, au contraire, c'est une nécessité à chaque fois de partir dans une aventure et qu'un metteur en scène vous amène ailleurs.
Vous, personnellement, vous avez eu envie ou peut-être que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure de la réalisation, justement, ou c'est quelque chose qui vous tente pas plus que ça pour l'instant?
Ça y est, là, je viens de réaliser un court-métrage. Ouais, j'ai vraiment aimé ça.
Donc on peut imaginer vous revoir derrière la caméra sur un long-métrage, éventuellement à un moment donné?
Oui, ça peut être possible. Depuis que j'ai fait ce court-métrage, les choses sont encore plus possibles. Ouais.
Au cours de votre carrière, quels sont les réalisateurs qui vous ont le plus marqué ou éventuellement influencé ?
Des réalisateurs avec qui j'ai travaillé ou...
Oui.
Bah, tous. Tous parce que d'abord ils m'ont donné la possibilité de faire le métier que j'aime, d'être là où j'avais envie d'être. Et puis à chaque fois ils m'ont fait rentrer dans leur univers avec des rôles que... Voilà, ils m'ont appris mon métier d'actrice et je l'apprends encore. Donc chacun m'a amené ailleurs ou plus loin. Et à chaque fois, ça a été important.
C'est ça que vous aimez dans le métier d'actrice, c'est de continuer à apprendre en permanence, tout le temps, et sur le jeu, mais peut-être aussi plus sur la vie en fonction des sujets traités dans les films.
Oui, je pense que si c'est un trait de caractère.
C'est quelque chose qui est vraiment ancré chez vous.
Oui, j'aime bien chercher, j'aime bien me mettre dans des situations pas inconfortables, mais nouvelles.
Merci beaucoup.
Merci.
Le festival Premier Plan, c'est le festival de cinéma, ça tout le monde le sait, mais des manifestations se passent, d'autres choses se passent à côté de ce festival.
En marge du festival, une manifestation s'est tenue le mercredi 27 à l'initiative du collectif rassemblant plus de 30 organisations dont la CIMAD, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme ou encore le greffe. Cette manifestation avait pour but de dénoncer les conditions d'accueil des migrants. À la veille de la manifestation, Vincent, du mouvement des jeunes communistes, distribue les flyers à l'entrée du centre des congrès, le tout avec la bienveillance du festival.
On a vu plusieurs fois, des migrants, des réfugiés, qui n'ont pas actuellement de toit pour passer l'hiver, alors qu'ils devaient être mis à disposition justement par l'État, par la préfecture, et c'est pas encore fait. C'est pour ça qu'on alerte les gens sur ce qui se passe. Ce sont des gens qu'on voit pas forcément dans les rues, mais qui sont généralement invisibles, et qui ont des problèmes justement de logement, et il leur faut un toit pour un hiver, pour passer un hiver comme tout le monde, vivre dans la dignité aussi. Des personnes dans ce collectif ont demandé l'autorisation pour pouvoir distribuer des tracts à l'intérieur, ça a été accepté. Justement, il y a actuellement la table ronde là actuellement, où d'autres des personnes du collectif sont actuellement dedans pour pouvoir en discuter de ces problématiques-là. Et oui, il y a eu une discussion intéressante et qui peut être poussée sur ces questions-là.
À l'intérieur du centre des congrès, des réalisateurs et documentaristes sont réunis pour une table ronde sur la question. Abderrahmane Sissako, réalisateur de Timbuktu et qui a participé à la table ronde, considère que le cinéma a un rôle de sensibilisateur à jouer.
Le cinéma peut avoir un rôle, doit avoir un rôle dans tout ce qui nous concerne. Le rôle du cinéma, ce n'est pas seulement distraire. Hein. Le cinéma peut et doit avoir un rôle éducatif. Et s'il doit avoir un rôle éducatif, dans ce sens-là, il peut sensibiliser les gens sur les grandes questions qui nous touchent. Et particulièrement aujourd'hui, ce colloque, cette table ronde, c'était autour des migrants. Et on sait qu'aujourd'hui, la question des migrants est une question qui est extrêmement importante parce que nous vivons un moment de guerre, de beaucoup de guerres, et quand il y a les guerres, c'est des malheurs. Ce sont des centaines de milliers de gens qui partent, qui n'ont pas le choix. Et donc le cinéma peut jouer un rôle d'éviter parfois tous ces amalgames qui se font, voilà, quand il y a une crise.
Les cinéastes sont d'ailleurs mobilisés depuis longtemps, comme le rappelle Catherine Corsini, lors de la table ronde.
Déjà en 1997, on avait fait un appel, l'appel à désobéir, d'ailleurs qui avait été initié par Arnaud Desplechin, qui est président cette année, Pascal Ferrand et puis d'autres cinéastes, et puis voilà, qui demandaient la régularisation des sans-papiers. Ça, c'était en 1997, et depuis, on s'est toujours réunis, retrouvés, voilà, autour du thème de l'immigration, et on a agi sur certains dossiers, et notamment ces derniers temps, donc il y a eu des articles dans Le Monde qui nous ont vraiment alertés, et on a décidé enfin de faire un appel, ce qu'on a appelé l'appel de Calais, qui a été signé par 800 cinéastes.
Martine Pastot, présidente de Soleil 49, une association qui aide les sans-papiers, et une des nombreuses associations du collectif appelant à la manifestation, était présente à la table ronde. Elle explique ce qu'elle constate à Angers.
Actuellement, sur Angers, 25 personnes de Calais sont hébergées à l'AFPA pour leur permettre un petit peu un temps de souffler. Voilà, on les ramène, on essaie de un petit peu les ramener dans des endroits plus paisibles pour bien se reposer. Mais en fait, ces gens ne souhaitent pas rester en France. Ils veulent aller en Angleterre. Je ne sais pas qui souhaitera rester en France d'ici quelques années. Peut-être que le problème va se résoudre de par lui-même parce que les conditions d'accueil sont quand même très difficiles. Les gens qui devraient avoir droit à des hébergements ne sont pas forcément logés. Nous avons plein de personnes avec des titres séjour, avec même des statuts de réfugiés qui n'ont pas d'hébergement. À Angers, ça existe, hein, même si on est une petite ville de province qui semble bien calme. On a tout à fait les mêmes problématiques, moins importantes en nombre bien sûr, mais les mêmes problèmes se posent. Il y a une politique à reconsidérer. Ça coûte très cher effectivement de poser des murs autour de Calais. Ça coûte très cher de réexpulser les gens. Ça coûte très cher d'ouvrir des places de CADA qui sont vides actuellement parce qu'on attendait, on devait y mettre des réfugiés syriens mais qui ne sont pas venus. Suite aux attentats, il y a un certain nombre de blocages un peu partout. Et toutes ces places de CADA vides coûtent très cher chaque jour et pourraient permettre à ces gens qui sont dans la rue d'être hébergés. C'est vrai qu'actuellement, c'est très difficile parce qu'on a l'impression que tout est un peu fermé. Même la presse, qui il y a quelques années s'intéressait beaucoup à nos actions, est de moins en moins présente. Je vais vous citer un cas tout simple. Il y a 2 ans, on a eu une famille qui était logée au 115, là. Le monsieur a eu un matin un œdème pulmonaire, donc transporté à l'hôpital d'urgence. Évidemment, il a failli mourir, c'était très, très, voilà, très grave. Au bout de 8 jours, il devait ressortir. Ressortir le 115. Ben, pas question de ressortir au 115 dans l'état où il était. Le pauvre, il ne tenait pas debout. Bon, on a alerté les radios, on a alerté la presse. Effectivement, tout le monde est venu. On a eu des photos dans la presse. On a alerté, bien sûr, la préfecture, mais qui a trouvé dans un premier temps uniquement une place à l'hôtel pour quelques jours. Et puis, devant notre insistance et devant cette campagne, la famille a réussi à être hébergée dans un appartement. Bon, maintenant, irrégularisé, tout va bien, tout se passe bien pour eux, le travail, voilà, ils sont parfaitement intégrés. On avait, il y a encore 2 ou 3 ans, le soutien de la presse, ce qu'on n'a quasiment plus maintenant. On a quelques articles de temps en temps lors d'une manifestation un petit peu importante. Peut-être que mercredi soir, il y aura quelque chose sur la manifestation devant la préfecture. Mais on n'a plus ce soutien qu'on avait. Effectivement, on a l'impression que bon, les gens sont lassés, les gens blasés ou n'ont plus envie. Ou c'est contre-productif. On en a assez de parler des migrants, alors qu'en France, ça a toujours été un pays de migrants. Il y a actuellement pas plus de migrants, je lisais l'autre jour, qu'il y a 80 ans.
Le lendemain, le rassemblement d'environ 300 personnes a poussé l'équipe préfecture à recevoir une délégation composée de 4 membres. Après plus d'une heure, 2 membres de la délégation sortent. Jasmine Imbert, de l'UNEL, assistait à sa première réunion à la préfecture.
Je suis choquée et je suis carrément déçue, en fait. Enfin, je pensais pas que cette question, elle était aussi délaissée, en fait. J'ai l'impression que concrètement, c'est une question parmi tant d'autres et ils vont pas en prendre compte plus que ça. Enfin, en fait, ce qu'ils ont fait, c'était juste tourner autour du pot et ils ont vraiment rien apporté de concret, pas de réponse, pas essayé de trouver des solutions à nos questions, quoi.
Martine Pastot, que l'on retrouve avant que les 2 derniers membres de la délégation ne sortent de la préfecture, est mi-fig, mi-raisin.
Dans un premier temps, je suis assez satisfaite du nombre de personnes présentes, parce qu'il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde devant la préfecture, donc ce qui prouve que les gens se mobilisent et sont sensibilisés à notre mouvement, de même que les étudiants, puisqu'il y a aussi un certain nombre d'étudiants. Par contre, bien, il est certain que... Moi, personnellement, je n'attendais pas grand-chose des réponses de la préfecture parce que la langue de bois, ils connaissent bien. Ils diluent les problèmes et en général, on n'a guère de réponses satisfaisantes immédiatement.
Pour eux, le combat continue puisqu'une nouvelle manifestation aura lieu mercredi prochain à 18h devant la préfecture. Pour faire bouger les choses, plusieurs moyens. Les manifestations, l'investissement associatif, mais comme le rappelle Abderrahmane Sissako, c'est aussi aux médias dans leur ensemble de faire leur part du travail.
Sans généraliser trop, et parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a des gens, des associations ou des bénévoles qui se battent, qui reçoivent, qui accueillent, etc. Il y a ça, et ça, il ne faut pas l'ignorer. Mais à côté de ça, c'est que la presse fait de cette question, pour moi, c'est parfois choquant. Voilà. Et on réduit tout d'un coup, on crée la peur chez les gens. C'est ce que je disais ce matin. Une société qui a peur, c'est une société qui n'est pas en bonne santé. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Celui qui arrive en nageant parfois, en se noyant, parce qu'il y a la moitié parfois qui se noie ou qui meurt. Ceux qui sont partis sont vivants, mais... Et la guerre tue des milliers de gens. Et donc, quand les gens arrivent avec leurs baluchons parfois, sans rien, et qui veulent, il faut accueillir ça. Ça, c'est le rôle de l'humanité. Il faut accueillir, il faut prendre les gens dans leurs bras et ne pas avoir peur.
Brian Auger and the Trinity avec le titre Pavain. C'est dans le sous-marin sur les ondes de Campus. Tout de suite, une critique de A Cry from Mountain, un film chinois, une critique réalisée par Mathilde que vous avez l'habitude de retrouver dans Cinequanon.
Hier soir, j'ai été au 400 coups voir, attention les bilingues, vos oreilles vont saigner, A Cry from Mountain, un cri venant de la montagne. C'est un long métrage chinois réalisé par Zhu Yalin en 2013. Et hier soir, c'était la deuxième projection mondiale, la chance. Zhu Yalin est issu d'une famille d'anthropologues. Pour réaliser ce film, il s'est appuyé sur une histoire vraie, il a filmé dans une campagne chinoise et quant aux acteurs, il a été chercher du pur local. Pour la petite histoire, Chun Wang vit avec sa fille. Son mari travaille en ville et rentre quand il peut, touché par la détresse de deux enfants croisés sur un pont, en train de crier et pleurer l'abandon de leurs parents, elle décide de faire un film sur les enfants délaissés pour tenter de faire revenir leurs parents. Faut savoir que plus de 60 millions d'enfants ont été abandonnés dans ces conditions, et ces minorités en Chine étaient divisées en une dizaine de provinces avec des traditions et des cultures différentes. Le cinéma, c'est tout un business, c'est du fric et plein de codes. Elle veut juste filmer des mots malheureux et les montrer aux parents. Elle sait à peine écrire, elle travaille au champ ou ramasse des déchets. Si son film sort en DVD, je n'ai même pas la certitude qu'un parent possède un lecteur pour le lire, et quand bien même, réussira-t-elle à réunir tous les parents? Peu importe, parce qu'elle le fera quand même son film. Son intention est noble et je me demande alors qu'est-ce que c'est faire un film. À un moment donné, l'image s'est figée et les sous-titres continuaient de défiler. Je me suis demandé si un roman photo n'aurait pas été plus judicieux parce que les sous-titres étaient mal centrés sur l'écran, il y avait des fautes d'orthographe et j'ai l'impression d'avoir manqué d'infos car la traduction était plus que douteuse par moments. Par exemple, une nana prononce une phrase d'au moins 20 mots et elle n'est pas très contente et le sous-titre c'est « Je sais ». Il y en a deux ou trois, des surprises comme ça dans le film. Bon, je perdais un peu patience par moment, déjà parce que la nana à côté de moi n'arrêtait pas de soupirer, mais aussi et surtout par le jeu des acteurs. C'est sûr qu'on n'allait pas leur demander de faire l'acteur studio, et je comprends l'intention du réel de rester dans du naturel à fond, mais je serais pas honnête si je disais que ça ne m'a pas gênée. Ça m'a embêtée parce que j'avais du mal à être dedans, mais paradoxalement, j'étais touchée parce qu'on a demandé à un paysan de mettre en scène sa vie, et c'est pas avec leur salle de télé commune qu'il allait pouvoir savoir jouer être ou ne pas être. En dehors de ça, j'ai passé un moment intime et coupé du temps. J'ai relativisé en me disant que s'il ne reste plus grand-chose dans mon frigo, c'est pas très grave. Je ne sais pas trop comment réagir, j'avais l'impression d'être devant un documentaire sur Arte sans la voix off. Je n'ai pas réussi à réellement m'identifier et je n'aurais pas la prétention de dire que je compatis car je suis loin de leur vie et on est tous loin de tout ça. C'est pourquoi parler de ce film n'est pas une tâche facile si on décide d'en parler autrement qu'en surface. Je peux le recommander aux gens, mais qu'ils ne s'attendent pas à voir du divertissement et à rire comme certains ont pu le faire lors de la séance.
Anthony voulait également tirer le portrait de Zia Demirel. Zia Demirel, c'est un réalisateur qui nous a proposé son premier court-métrage.
Hier soir, j'ai aussi regardé le court-métrage Sally de Zia Demirel, qui était diffusé avant Bye Bye. Le film retranscrit à l'écran la journée d'école ordinaire d'une adolescente. Pas si ordinaire que ça, puisqu'elle va rencontrer trois hommes dans sa journée. Trois rencontres assez étranges, surtout la dernière. Zia Demirel, 28 ans, les cheveux longs, une barbe de 3 jours. Un regard perçant est posé. Notre présence à la rencontre n'a pas l'air de l'impressionner. Bien dans ses fringues, de bobo. Il a l'air simple, mais avec une certaine élégance. Quand le public lui pose des questions, il les regarde, fronce les yeux, les sourcils. On sait qu'il est concentré et intéressé par ce que pensent les gens de son film. Ses réponses sont réfléchies, il parle doucement. Il a plusieurs regards complices avec son actrice, à qui il fait un clin d'œil. Ah, les réalisateurs et leurs muses. Bref, je m'égare. Souriant, il dit qu'il aime parler des gens, des relations qu'il y a entre les personnages, de la synergie, de la force dans les rapports avec les autres. Même s'il paraît jeune, le monsieur sait de quoi il veut parler. Son film parle de liberté volée, de liberté limitée. Zia Demirel est humble et son attitude montre qu'il a envie de cinéma. On lui souhaite en tout cas de réussir.
Et tout de suite, pour conclure cette émission, Thibaut, traditionnellement, tu vas nous faire l'agenda. Alors là, ce n'est pas l'agenda de ce soir et de demain, ça va être l'agenda jusqu'à la fin du festival. Qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a de lourd à faire ?
Au programme de votre soirée, c'est vers les 400 coups que ça se passe avec la projection à 22h d'un programme de court-métrage préparé par la Austin Film Society. Comme vous le savez peut-être, Angers et Austin sont jumelés depuis 2010, ce qui donne lieu à de nombreux échanges culturels, dont le plus visible est le Lévitation France, que l'on retrouve chaque mois de septembre au Shabada. C'est donc l'occasion de découvrir des documentaires et des fictions américaines, parce que rappelons-le, le ciné US ce n'est pas que les films Marvel ou Michael fucking Bay. Si vous avez raté les projections de films d'école malgré nos recommandations, demain sera l'occasion d'une session de rattrapage puisque les programmes 4 à 6 sont rediffusés tout au long de la journée. Ne ratez pas également le programme 2 des plans animés à 14h dans l'auditorium du Centre des Congrès. À 19h45, les 400 coups sont à nouveau The Place to Be avec un programme de court-métrage issu d'une carte blanche à l'Institut français d'Alger et aux rencontres cinématographiques de Béjaïa. Vous y retrouverez notamment trois documentaires issus du laboratoire documentaire d'Alger en juin dernier. Réalisé en collaboration avec Premier Plan, il s'agissait de faire faire ces documentaires à trois équipes de trois professionnels du cinéma algérien à la suite de 15 jours de formation. Et comme tu l'as souligné, Pierre-Louis, puisque c'est notre dernier sous-marin en ce lieu, je me permets d'aller un peu plus loin et de vous conseiller de réserver vos places pour la nuit de clôture du festival au Shabada. Notamment parce que c'est le Chroma Club qui est aux manettes, ce collectif issu des mixtapes de l'apéro qui mélange bon goût musical, du hip-hop à l'électro old school, à des performances toujours originales et décalées, comme on avait pu le voir lors des accroche-cœurs de ces dernières années. La nuit s'annonce donc chaude et contrairement à ce que chantaient les shérifs, elle sera longue puisqu'elle durera jusqu'à 4h du matin. Enfin, dimanche, pour décuver tranquillement, les films primés la veille seront rediffusés tout au long de la journée au Centre des Congrès, l'occasion donc de voir ou de revoir de très belles choses. C'est tout pour moi, vous avez encore 3 jours pour aller vous remplir les yeux d'images et j'en profite pour redire que ça aurait été un grand plaisir pour moi et pour tout le monde je pense de couvrir ce festival. On aura vu plein de choses, parlé avec des personnes très intéressantes et j'espère que l'on aura réussi à vous transmettre l'envie de venir voir par vous-même ce qu'il en était.
Merci beaucoup Thibaut, effectivement c'était un grand plaisir. J'en profite pour remercier Mélissa, Anthony, Mathilde, Antoine qui ont participé à cette émission. Critique, interview et portrait étaient au programme ainsi que reportage. Je remercie également Étienne Devesch qui était à la programmation et à la réalisation de cette émission. Évidemment, on remercie nos invités, nos interviewés, à commencer par la vice-présidente du jury Laetitia Casta, mais aussi le cinéaste réalisateur Hugo Radi, le Suisse. Et on remercie évidemment le festival Premier Plan de nous avoir permis de nous installer au Centre des Congrès. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour de nouveaux sous-marins. On s'éclipsera de Premier Plan, on retournera sur l'actualité angevine pure. Allez, bon week-end, vous avez le droit de reprendre une activité normale.
Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus Angers.
Plateau radio.
Toute cette semaine, nous sommes installés dans le hall du Centre des Congrès.
Live report.
J'ai été à la rencontre de quelques groupes, de festivaliers,
interviews et reportages.
Pour en savoir plus sur cette édition, nous sommes au téléphone avec l'un des fondateurs du label Infiné. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Radio Campus Angers sort du studio.
Merci, merci à tous d'avoir participé à ce TikTok Boom Club exceptionnel du bazar.
Et s'agite sur le terrain.